Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain.
Le sportif. Terrain. Le
sport. Y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain. Le sportif. Terrain. Le. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à l'émission Le terrain sportif tous les lundis matin, 10h30 midi, sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Montréal, la plus grande radio universitaire francophone au monde, mesdames et messieurs, c'est un fait. Et également en rediffusion les lundis soirs, 20h, 21h30, sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke en Estrie, une des plus belles régions du Québec. Votre animateur et moi-même, Wissem Bensta, pour cette édition du 28 octobre 2024. C'est la dernière édition du mois d'octobre 2024. Donc la prochaine sera le 4 novembre et la prochaine édition du terrain sportif sera ma dernière en présentiel, puisqu'après ça, bien, on commencera un voyage, un gros road trip du côté de l'Europe pour aller couvrir des matchs avec des petites accréditations à quelques endroits. On va en reparler. Et rappelez-vous que la page de l'émission sur Instagram, c'est Sport CISM, tout simplement Sport avec un S, CISM, le tout en un seul mot. Et là-dedans, vous pouvez voir nos photos, des entrevues qu'on a réalisées et quelques contenus également de vidéos, notamment par rapport à des voyages qui ont été faits du côté de l'Europe, de Valence, de Lisbonne, de Porto, même de Sherbrooke, de Toronto et un peu partout à travers la planète. Donc cette semaine à l'émission, eh bien, c'est la fin, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de saison au CF Montréal. La saison est terminée. Elle s'est terminée mardi dernier à domicile contre Atlanta United FC dans une défaite au tir au but dans un match que le CF Montréal a dominé de A à Z en passant par B et X. Ils ont dominé ce match-là, mais malheureusement, ils l'ont perdu. Et donc, cette semaine, on va parler du bilan de saison qui a été dressé par les dirigeants du CF Montréal et certains joueurs. On va voir des entrevues également croustillantes de fin de match de mardi dernier côté Stade Saputo. Et la semaine prochaine, on aura un collaborateur avec nous qui va venir nous parler plus en détail, plus en profondeur de l'effectif du CF Montréal. Qui devrait revenir, qui devrait quitter et qui devrait quitter en courant. Parce qu'il y a des joueurs cette année qui ont bien fait. Et il y a des joueurs dans l'effectif eh bien, qu'on paye à ne rien faire puisqu'ils n'ont pas le niveau. Et ils coûtent beaucoup de sous à la direction du CF Montréal. On va en parler la semaine prochaine avec notre collaborateur William. Et également à cette émission-là, eh bien, on va parler de la LHJMQ, sport universitaire et puis quelques actualités sportives à travers le continent américain et à travers le monde. Le terrain sportif, édition du 28 octobre 2024, c'est maintenant. Parle-moi donc de ça. Bon, ça c'était nos jingles qui annoncent qu'on va parler du CF Montréal puis on va en parler assez longuement aujourd'hui. Donc le match de mardi dernier, le 22 octobre 2024. C'est un coup d'envoi à 7h30, donc un coup d'envoi habituel pour ce qui est l'horaire du CF Montréal cette saison, puisqu'il jouait tout le temps ou presque les samedis à 19h30, ce qui est bon, puisque j'aime plus ça que des matchs d'après-midi. Le match en tant que tel. En première mi-temps, le CF Montréal a dominé de A à Z Atlanta, sauf que Atlanta, ils ont eu 3 opportunités et ils ont marqué 2 buts. Donc, ils ont été très opportunistes. Il y a eu également une opportunité là, avec un ballon, un centre venu de la gauche pour Brooks Lennon, si je ne m'abuse, qui a mis le ballon en haut alors qu'il était vraiment seul face au gardien. Ça a été une grosse opportunité de rater, mais mis à part ça, on a eu des tirs, on a contrôlé le jeu et on a dominé notre adversaire. 2 buts de la tête de Lennon et Gregerson et les 2 buts ont été proviennent de la couverture surtout de Raheem Edwards, le latéral gauche, et Fernando Alvarez, le défenseur central. Les deux buts, c'était ces deux joueurs-là qui étaient aux commandes des attaquants de Atlanta United FC, et ils n'ont malheureusement pas été en mesure de bloquer ces ballons-là de la tête, puisque les deux buts, c'est des longues balles dans la surface de la réparation. Et après ça, une tête seule au gardien et ça fait mouche deux fois et donc 2-0. Donc, de la défense assez molle là, de la part de Raheem Edwards et de Fernando Alvarez, qui était titulaire au lieu de Gabriele Corbo. Si vous me demandez mon avis personnellement, je préfère Gabriele Corbo parce qu'il amène également une touche offensive que j'aime bien voir. Quant à l'alignement de cette équipe-là, le 11 partant, c'était Sirois dans les buts, défense à 3, Waterman, Campbell, Alvarez. Deux milieux de terrain, québécois, Samuel Piette, le capitaine, et Nathan Saliba. Latéral gauche, Raheem Edwards. Latéral droit, Jack Healy, Marshall Routy. Et les trois devant, Bryce Duke, Caden Clark et Joseph Martinez. Donc, on est en train de perdre à la mi-temps 2-0 contre Atlanta United FC. C'est un match dans lequel il n'y a pas de lendemain. Donc, tu perds ce match-là, ta saison est terminée. En deuxième mi-temps, on revient avec le couteau entre les dents et on domine complètement, encore une fois, l'équipe d'Atlanta United FC qui manque beaucoup d'occasions sur contre-attaque puisqu'ils auraient pu faire 3-0 ou 3-1 facilement. On doit dire un gros merci à Jonathan Sirois par rapport à ça. Et là, après ça, à la 63e minute, Joseph Martinez, sur une erreur du gardien de but, la légende en passant, là, Brad Gousens, c'est une légende, il a déjà joué en Angleterre très longtemps, là, il joue avec Atlanta depuis très longtemps, il a d'ailleurs joué avec Joseph Martinez, il était là quand Atlanta United FC ont commencé à faire partie de la MLS, et donc ils se connaissent bien les deux, ils ont une histoire très riche avec le club de la Géorgie. Et suite à le gardien de but Gouzan qui échappe le ballon, et bien Joseph Martinez met le ballon au fond d'une cage vide et ça fait 2-1 pour Atlanta United FC. Et à la 89e minute, penalty sur une faute de Ibrahim Sounoussi qui est rentré en cours de jeu. Lui qui a quand même marqué là, plus de 6 buts cette saison. Et c'est Joseph Martinez qui prend le penalty et qui fait 2-2. Et là, mesdames et messieurs, on domine complètement le match. On l'a dominé toute la deuxième mi-temps. Puis à la fin de la deuxième mi-temps, eh bien, ça aurait bien pu faire 3-2. Malheureusement, le coup de sifflet final arrive. Et contrairement à la très grande majorité des championnats et des coupes et des matchs à élimination directe, en MLS, pour ce match-là, le match, ce qu'on appelle de wild card, le match de barrage, comme on peut dire, l'équipe n'a pas accès à 30 minutes de prolongation. Donc, le CF Montréal doit se contenter de tirer au but directement après le coup de sifflet final. Et ça, c'est catastrophique parce que le CF Montréal dominait et on aurait eu 10 minutes de plus probablement qu'on aurait marqué le troisième but puis qu'on l'aurait emporté. Et donc, à la séance de tir au but, c'est Atlanta United FC qui l'emporte. Les 5 tireurs ont marqué. Et quant à nous, 4 des 5 ont marqué, mais le deuxième, Tom Pierce, a envoyé le ballon au milieu du gardien de but et ça a été arrêté par Brad Gousen assez facilement. Et quant à l'équipe de Atlanta, ben Derek Williams, lui, l'a envoyé en plein milieu le ballon. Puis malheureusement, Jonathan Sirois n'a pas pu l'arrêter puisqu'il s'enlignait pour aller sur son côté gauche. Et donc, juste comme ça, on est éliminé de la MLS. Après une saison, honnêtement, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas excellente, elle n'est pas très bonne. Ça a été une bonne saison du CF Montréal. Une saison correcte, une saison acceptable selon les moyens qu'on avait avec Joseph Martinez qui a connu toute une saison, honnêtement, exceptionnelle. En 24 matchs cette saison avec le CF Montréal, il a marqué 13 buts. Et récolté 3 passes. Donc, décisif 16 fois sur 24 matchs. Ce qui est quand même très bon. Et quand on regarde à quelle fréquence il marque des buts, il a marqué des buts à toutes les 113 minutes. Donc ça, c'est presque à tous les matchs. Ça a été le joueur qu'on est allé chercher. Le grand nom, ça a été lui. Et puis, il a répondu présent aux attentes des fans. Et c'est un des joueurs qui a été le plus ovationné généralement, là, quand on nomme le 11 initial. Et quand on regarde à quelle fréquence les joueurs de la MLS ont marqué des buts. Le premier, c'est Lionel Messi, il marque à toutes les 74e minutes. Le deuxième, c'est Alonso Martinez de New York City FC. Le troisième, c'est Luis Suarez qui marque à toutes les 96 minutes. Cucho Hernandez qui marque à toutes les 113 minutes. Et Joseph Martinez, mesdames et messieurs, qui marque à toutes les 113 minutes. Donc devant lui, bien il y a Messi, il y a Suarez, et puis il y a Cucho Hernandez qui est probablement le meilleur attaquant de la Ligue, mis à part les deux monstres que sont Lionel Messi et Luis Suarez. Donc c'est une saison exceptionnelle de Joseph Martinez. Par contre, après lui, offensivement, avec Caden Clark qui a bien fait, il n'y a pas eu beaucoup d'options offensives, mis à part Joseph Martinez, cette saison. Ibrahim Sounoussi a répondu présent quelques fois en première moitié de saison, mais après ça, ça a été très compliqué. Il n'a plus beaucoup joué, tout comme d'autres joueurs de l'effectif, notamment Dominique Yankov qui a été signé, qui n'a pas beaucoup joué, et d'autres défenseurs que le CF Montréal a signé. Et c'est quoi dire également de Cocaro, qui ne joue plus avec le club là, lors de la fin de saison. Donc le CF Montréal est éliminé à cause de cette séance de tir au but perdue. Le CF Montréal, tout comme Atlanta United FC, avait joué samedi, le samedi précédent. Et ce que je trouve un peu ridicule dans ce format des playoffs de la MLS, c'est que le match pour la conférence de l'Ouest, eh bien lui, il avait lieu mercredi, le 23 octobre. Et Vancouver, d'ailleurs, l'a emporté 5-0 contre Portland, les Timbers. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Portland et pourquoi Vancouver ont eu un match de repos de plus que le CF Montréal. C'est totalement injuste, d'autant plus que les quatre équipes ont joué la même journée, c'est-à-dire samedi dernier, il y a à peu près une semaine et demie de ça. Et également, si la MLS considère les cotes d'écoute et ne veut pas mettre deux matchs en même temps pour éviter que les fans puissent se diriger vers un ou l'autre des matchs, et donc il y aurait moins de personnes qui regarderaient, par exemple, Vancouver, eh bien, Vancouver, c'est un coup d'envoi là, qui peut être facilement donné à 10h30 le soir, et le CF Montréal, c'est à 7h30. Donc, les deux matchs n'ont absolument aucun conflit d'horaire. Et donc, c'est assez ridicule de la part de la MLS d'avoir donné des jours de moins au CF Montréal. Et puis peut-être que ça leur a fait la différence, et évidemment cette règle-là d'avoir des tirs au but directement après le match normal au lieu d'avoir 30 minutes de prolongation, ça l'a fait une grande différence dans ce match-là. Maintenant, on va écouter notre ami Samuel Piet et George Campbell en conférence de presse. J'ai eu l'opportunité de leur poser une question à chacun. On écoute ça puis on revient après ceci.
Hi, George. Thank you for your time. You had the momentum at the end of the second half, or almost all of the second half. Would you have preferred to go to overtime instead of doing penalty kicks right away?
Yeah, I mean, I think probably if it was this way, we probably would have poured out more chances and score, but we knew the rules going into the game, so I don't think it's something that we'll think about too much.
Bonsoir Samuel, merci de ton temps. Somme toute, quand même, malgré cette défaite ce soir, est-ce que vous tirez beaucoup de positifs de votre saison avec le club?
Oui, c'est sûr qu'il y a du positif, il y a du moins bon aussi. Mais c'est sûr que dans le moment présent, il y a beaucoup plus de positifs à prendre que si on terminait la saison avec 5-6 défaites. Donc c'est sûr qu'on retient ce positif-là, on ne peut pas mentir là-dessus. Je pense qu'on a corrigé beaucoup de trucs en cours de saison. Il y a encore des trucs, malheureusement, qu'on maîtrisait dernièrement, qu'on a laissé aller ce soir, qui nous a fait mal. Mais, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais au final, je pense je ne veux pas dire qu'on fait une bonne saison, parce qu'on peut parler du moment très cru qu'on a eu, l'élimination au championnat canadien, la défaite à Toronto. Tout ce moment-là. Mais au final, de tout simplement avoir réagi, d'avoir réussi à tourner un peu le vent de notre côté, puis de se tailler une place en série. quelque chose, série, plein, appelez-le comme vous voulez, voyez-le comme vous voulez. Il n'y a pas grand monde qui nous voyait là. Encore moins il y a quoi, 2 mois. Donc, force de caractère, il y a ça à retenir, certainement.
Voilà, donc c'était George Campbell qui était d'accord avec mes propos par rapport à la prolongation, qu'il aurait probablement, il a dit qu'il aurait probablement fait beaucoup mieux s'il y avait eu 30 minutes de prolongation, mais en même temps, il connaissait les règles, donc ça n'est pas une excuse. Et quant à Samuel Piatt, eh bien, il a parlé qu'il y a eu beaucoup de positifs durant la saison malgré la défaite, vous l'avez entendu, là, puisqu'il s'est exprimé en français comme à l'habitude. Et on parle, il faisait surtout référence là, à partir du mois de juillet. Les mois de juillet et août ont été catastrophiques pour le CF Montréal, notamment là, la Ligue Cup où est-ce qu'on s'est fait éliminer. On a également le championnat canadien où est-ce qu'on se fait éliminer contre Forge. Donc ça a été catastrophique. Ça a vraiment été un échec sur ce point-là. Mais à partir du mois de septembre, là, septembre et octobre ont été des très beaux mois pour le CF Montréal. On a seulement eu une défaite du côté de la Charlotte 2-0. Et sinon, on a battu Charlotte 2-1, 2-2 contre la Nouvelle-Angleterre, 2-0 contre Chicago, 3-0 contre San Jose, 2-1 contre Atlanta, 2-0 contre New York City FC et le dernier match à domicile. Malheureusement, la défaite au tir au but contre Atlanta United FC. Sur ce, on s'en va en musique et on revient après ceci avec plus de soccer de la MLS. Vous écoutez le terrain sportif.
On se cache en étoile. the disco. Remind me of you. I beat that butt, I beat that butt, I beat, beat, beat that butt blue. Je suis le miel dont tu as envie. La liqueur pour qui tu cries. Le pop pop psycho qui te jouit. Et le type des black papi. I could be your OJ, your midnight mandingo. Turn cherry slush to ghost blood for a thick hoe. Ring ding ding à mon comptoir. Par pas toc donc à mon slack bar. Es-tu trop tough pour grignoter un peu de mon yop détaché. Dick to make a girl go dumb, go thick. Bust nuts on daddy's girl's trust fund check. Suzy te parle du SUV. Couche-toi dans LTI. La blanche figée c'est Walt Disney. C'est ça, 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 tu veux rêver. I peanut butter that thing. I cocoa pop pop that ass. We're swapping juice in your mom's best lemon. Got you skipping class. Ma cocotte te joue des nothing. La coche blanche, pas toi, touche-moi. Ma cocotte est polyglotte. Nos cœurs se languissent, toi, pousse-moi. Milky but my mom's boss. I could be a color love. Like it but any job. But I could be a color love. Push it till we black out. Push it in your color love. Push. Let me be a color love. Push. I could be a color love. Push. Let me be a color love. Pousse. Je serai ton color love. Pousse. Laisse-moi être ton dirty dove. Push. Let me be your color love. Push. I will be your dirty dove. Thanks to ghetto spread my demo. I'll show you what fast was all about. Making hot dogs, eating hot dogs. That's how girlies take you out. Slide in your dog meat in my white pastry. Do this new dance and push. Okay. Open side, push it, turn. Open side, push it, turn. H-O-T-D-O-G. Break it out now, that's crazy. Pops is bugging, pops is bugging. What more can I say? He's bugging, moms is bugging, moms is bugging. What more can I say? She's bugging. Just the kind of dude that he warned her about. Pitch black body on a smart little mouth. Head says the tongue, butt says the pearl. Walked off the dick like wild on a bush. Les deux sont à des semelles. Oublie ça avec nos ailes.
Vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif sur les ondes de CFAQ et CSM tous les lundis. Donc, on vient d'entendre trois chansons back-à-back. C'était Pomme, première artiste, nouveauté francophone de la semaine, bien évidemment, de Félix. Ensuite, il y a eu Super Plage avec la chanson Touriste feat La Couleur. Et pour terminer, c'était Zebra Kiss feat Spoek de Matambo, donc un peu de musique rythmée ici là, à CSM et à CFAQ. Donc maintenant, on va y aller, on va parler un peu de la saison du CF Montréal, mis à part le match contre Atlanta. Comment est-ce qu'on a performé cette saison? Puis après ça, après ce segment-là, eh bien, on aura des conférences de presse et puis des entrevues du bilan de saison qu'on pourra partager avec vous. Puisque j'y étais, ça se passait vendredi dernier, le 25 octobre, en direct du stade Nutrilait, le centre d'entraînement où est-ce que le CF Montréal pratique et peaufine ses stratégies avant les matchs. Donc, on était dans la conférence de l'Est comme à l'habitude et cette saison, on a terminé 8e. C'était le poste qui nous permettait de recevoir un match de barrage pour ensuite jouer contre le premier. Donc, le 8e et le 9e s'affrontaient et le gagnant de ce match-là allait jouer contre le premier. Je vais y revenir tout à l'heure de ça parce que ça, c'est une autre grosse, énorme déception pour le CF Montréal et pour tous les fans de soccer à Montréal. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc, overall, cette saison, on a joué 34 matchs. Pour comprendre, il y a 30 dans la Ligue, il y a 29 équipes et on n'a pas pu jouer un match contre toutes les équipes. Bien évidemment, il y a des équipes comme Los Angeles City FC et Los Angeles Galaxy qu'on ne voit pas puisqu'ils sont complètement de l'autre côté du continent nord-américain, en Californie. Et vu le fait qu'il y a beaucoup d'équipes, on ne peut pas jouer contre toutes les équipes et on joue contre deux fois contre chaque équipe de l'Est. Donc ça nous met à 28 matchs. Et ensuite de ça, eh bien, on joue quelques matchs contre les équipes de l'Ouest. Quand on regarde notre saison à 34 matchs, on a eu 11 victoires, 10 matchs nuls et 13 défaites. Donc on a perdu plus de matchs qu'on en a gagné. On a eu un différentiel de -16. Donc ça, c'est un des pires de notre conférence, de la conférence de l'Est. Il y a seulement DC United, Toronto, Nashville, New England et Chicago qui ont fait pire que nous. On a marqué 48 buts en 34 matchs et on a encaissé 64 buts en 34 matchs, ce qui nous donne 43 points au 8e poste. Les 64 buts qu'on a encaissés dans la conférence de l'Est, c'est il y a seulement deux équipes qui ont fait pire que nous, c'est DC United qui en ont accordé 70 et la Nouvelle-Angleterre qui en ont accordé 74. Petit fait cocasse, lorsqu'on a joué la Nouvelle-Angleterre du côté du Stade Saputo, ils nous ont battu 5-0. Donc ils ont contribué beaucoup à ce 64 buts encaissés. Ça, c'est overall. Maintenant, quand on regarde à la maison, à domicile, le CF Montréal est la cinquième meilleure équipe de l'Est. 17 matchs joués, 8 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites. Donc, on a gagné deux fois plus de matchs qu'on en a perdu à domicile. On a un différentiel de plus 5. On a marqué 28 buts à domicile en 17 matchs. Et ça, quand on regarde les équipes de la conférence de l'Est, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait mieux que nous. On a à domicile Atlanta qui en a marqué plus. On a les New York Red Bulls. On a Miami, Columbus et New York City. Donc, on est mieux que la majorité des équipes pour le nombre de buts marqués à domicile. Nombre de buts encaissés à domicile, on est à 23 buts encaissés à domicile. Puis ça, ça nous met à peu près là dans la moyenne. Il y a des équipes qui ont fait pire puis des équipes qui ont fait mieux. Ça, c'est à domicile. Quand on regarde maintenant à l'extérieur, mesdames et messieurs, c'est là où le bas blesse. On est 13e sur 15 à l'extérieur. 17 matchs joués, 3 victoires, 5 matchs nuls, 9 défaites. On a un différentiel de moins 21. Et ça, à l'extérieur, c'est le pire de la conférence de l'Est, mis à part la Nouvelle-Angleterre qui est à moins 26. On a marqué 20 buts à l'extérieur, ce qui est quand même pas trop mal, puisqu'il y a beaucoup d'équipes dans l'Est qui ont marqué moins que ça. Mais on a encaissé 41 buts à l'extérieur. Et encore une fois, la seule équipe qui a fait pire que nous dans la conférence de l'Est, c'est la Nouvelle-Angleterre qui ont encaissé 44 buts. Et donc, 14 points à domicile. Et quand on regarde toute la ligue, from coast to coast, le CF Montréal à l'extérieur, avec ses 41 buts encaissés, eh bien, c'est une des pires équipes de la ligue défensivement à l'extérieur. Seule la Nouvelle-Angleterre, Saint-Louis et San Jose, qui est la pire équipe de la ligue, ont fait pire que nous. Donc voilà, c'est un petit topo pour la saison régulière de la Ligue de MLS. On va parler des playoffs un peu plus tard dans l'émission, puis on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine plus en détail. Mais à l'extérieur, la meilleure équipe de toute la Ligue en 17 matchs, eh bien, c'est nul autre que l'Inter de Miami et Columbus Crew qui ont marqué 34 buts à l'extérieur. Et la meilleure attaque de toute la Ligue, domicile ou extérieur, eh bien, c'est Miami avec 79 buts en 34 matchs. Merci beaucoup, Luis Suarez et Lionel Messi. Ça va de soi. La pire attaque de toute la Ligue, eh bien là, on y va avec nos amis, encore une fois, de la Nouvelle-Angleterre. 37 buts marqués seulement en 34 matchs. Et la pire défense de toute la Ligue, nul autre que San Jose avec 78 buts encaissés. Et meilleure défense de toute la Ligue, eh bien là, on s'en va du côté d'équipe qu'on n'a pas beaucoup nommé cette saison au terrain sportif. On a l'équipe de Houston qui ont encaissé seulement 39 buts. Mais la meilleure défense de toute la Ligue, c'est surprenant, eh bien c'est Charlotte avec 37 buts encaissés en 34 matchs. Meilleur différentiel de toute la Ligue cette saison, eh bien ça aura été Columbus avec plus 32, Miami suit pas très loin avec plus 30 et moins 37, c'est le pire et ça vient avec San Jose FC, San Jose Earthquakes. Les meilleurs buteurs de toute la Ligue, eh bien là on l'a déjà dit plusieurs fois, là, c'est nos amis Christian Benteke qui a bien fait les choses, M. Benteke, cette année-là. Sauf que malheureusement pour lui, eh bien, il ne participe pas aux séries éliminatoires. Et ça, c'est rare de voir que le meilleur buteur de toute la Ligue ne participe pas aux séries éliminatoires. Il a marqué 23 buts. cette saison. Il a joué beaucoup de matchs, donc il est à peu près au même nombre de buts marqués par minute là, que Joseph Martinez. Je crois qu'il marque à toutes les 113 minutes également. Et le flop de la saison, si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, ça c'est avant parler des séries éliminatoires, eh bien notre ami Olivier Giroud, mesdames et messieurs, il a joué presque 10 matchs en MLS, puis il n'a pas marqué un seul but. Champion du monde, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de soccer. Sauf que le problème avec Olivier Giroud, c'est que oui, il a marqué beaucoup de buts, mais Olivier Giroud, c'est le meilleur joueur de tous les temps en matchs amicaux. Mais dans les matchs importants, nommez-moi un seul but très important d'Olivier Giroud dans une Coupe du Monde ou dans un Euro. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le match, son but contre l'Angleterre en quart de finale de la tête lors de la dernière Coupe du Monde. Mais à part ça, à part quelques buts contre l'Islande à l'Euro, la très grande majorité de ses buts ne sont pas des buts dont on va se rappeler longtemps. Là. Des buts, par exemple, que Griezmann a marqué, ou de Zidane, de Platini, de Mbappé, de Henry, des buts de Fernando Torres, etc., etc., etc. Donc, c'est un joueur qui a une très bonne attitude, qui fait le travail, mais on voit là en MLS, c'est un des très rares attaquants vedettes qui débarque dans le circuit nord-américain et qui a des statistiques aussi mauvaises que ça en termes de buts marqués. Donc voilà, c'était pour notre ami Olivier Giroud. On en parle un peu. Et malheureusement, mais peut-être qu'en séries éliminatoires, ça va changer. Puis on lui souhaite et on souhaite ça du côté de Los Angeles FC, l'équipe californienne. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient après ceci.
Je me suis baigné là où personne n'a pu regarder. L'eau était claire, elle était tranquille. Sur la rivière, j'étais immobile. Puis d'un coup, j'ai coulé. Je ne peux plus respirer. Puis dans mon lit, je me suis réveillé.
Québécois, veux-tu m'acheter un char? Tous mes amis sont loin, puis moi je suis toujours dans l'autobus. En échange, si tu veux, je deviendrai camelot. Je livrerai ta camelotte aux quatre coins de la ville. Je regarderai pas l'heure, je ferai semblant d'y croire. Oh Québécois, veux-tu m'acheter un char? Tu le fais pour d'autres, des pas beaux, des pas fins qui parlent et dans ton dos qui te lance des couteaux. Ah ouais donc Québécois, tu sais que je t'aime bien, tu peux l'écrire dans ton journal. Québécois, veux-tu m'acheter un char? Québécois, veux-tu m'acheter une TV en couleur? Je restais bien tranquille, je ferai pas de vagues. Je vais manger des pinottes, ben assis sur mon steak. Je serai accablé toute la sainte journée. Je regarderai mes chaînes, je vais watcher Vidétron. Je serai fidèle au poste. Oh Québécois, je veux une TV en couleur. Avec la chance, je pourrais me voir dedans, en train de chanter des chansons puis de parler des vraies affaires avec Julie Snyder. Il paraît qu'elle est bien fine, la pas fine. Oh Québécois, je veux une TV en couleur. Québécois, je veux une TV en couleur. Oh Québécois.
L'émission Le Terrain Sportif sur les ondes de CSM et de CFAQ. L'émission tire à sa fin, mais on vient d'entendre trois chansons. Encore une fois, des chansons francophones. On a commencé par Au Québécois de Urbain Desbois, ensuite Arboretum de Sophia Duhem et pour terminer, Une fleur de brun citron tirée de l'album Vaginite pour un dur à cuire. Donc voilà, ça c'est le nom de l'album. Donc maintenant, on va y aller avec Samuel Piette en entrevue. C'était son bilan de saison. Je lui ai posé une question, vous allez pouvoir écouter ça. Ça dure environ 1 minute et 30 secondes et on va revenir analyser ça dans quelques instants.
Bonjour Samuel, merci de ton temps. Qu'est-ce qui doit être amélioré un peu selon toi afin que le CF Montréal puisse aller plus loin en série?
Bonne question, je pense que tu as posé la même à Nathan. Bonne question, parce que aller plus loin en série, on peut tout simplement parler du dernier match contre Atlanta où, encore une fois, puis je pense que ça a été malheureusement une de nos faiblesses cette année, puis qui a été pourtant notre force dans le dernier match, c'est défendre sur des centres. Défendre sur des centres, que ce soit coupé arrêté ou tout simplement dans le feu de l'action, dans un jeu open play qu'on appelle. On s'est fait prendre trop souvent de fois sur des jeux comme ça. Après, est-ce que ces actions-là, ce sont des trucs que tu peux travailler un peu plus individuellement ou c'est tout simplement un état d'esprit? Potentiellement. Moi, je pense qu'au final, autant sur les phases arrêtées, offensives ou défensives, c'est vraiment, si tu as cette mentalité de vouloir gagner le ballon, tu pars avec un avantage. Donc, il y a ça. Je pense que collectivement, on est capable de faire mieux défensivement. Comment on défend ensemble? On était bon, je pense, en bloc bas. Puis on l'a vu en début d'année, surtout où on a eu beaucoup de matchs à l'extérieur. Puis on était capable d'avoir un bloc bas très compact, comme on l'a vu contre New York City, à la maison ici, puis de jouer la transition. Mais j'aimerais voir, moi, puis je pense que c'est un peu le sentiment un peu de tout le monde, d'appliquer un peu plus de pression et d'être capable de défendre un peu plus haut sur le terrain pour récupérer des ballons encore un peu plus haut sur le terrain. On le fait parfois, on le fait contre, je me souviens, contre Cincinnati à la maison où en 45 minutes, Cincinnati n'avait peut-être même pas traversé la moitié de terrain. Donc c'est très difficile et intimidant pour une équipe qui vient ici à la maison d'avoir ce style de jeu-là et se sentir vraiment étouffé. Donc si on est capable de mettre l'emphase sur ça, de travailler sur ça, d'être encore plus fort, ben, je pense qu'on est capable d'être une équipe qui presse haut, qui gagne le ballon haut, mais en même temps d'avoir un bloc solide un peu plus bas, comme on était quand même bon cette année. Donc ça fait quand même une équipe complète. Sinon, on regarde le match contre Atlanta, je pense que ça fait une domination totale en tonalité de notre part. Je pense pas qu'on était bon sur le dernier geste, que ce soit la dernière passe, le dernier centre. Après, bon, il y a des jours où ça, tout va aller ton côté, puis ça va bien aller. Donc ouais, je pense que dernier tir offensif, être un peu plus propre, je pense que ça pourrait aussi nous aider.
Le capitaine Samuel Piette du CF Montréal qui s'exprime et qui parle bien évidemment des problèmes défensifs, des lacunes, et il dit que c'est quelque chose qu'il devrait améliorer en tant qu'équipe, là, pas lui personnellement. Et je suis 100% d'accord avec ses dires, puisque quand on regarde la saison du CF Montréal, on a encaissé beaucoup trop de buts pour être une équipe honnêtement qui aspire à aller loin en série. On en accorde trop, on en a accordé deux encore contre Atlanta à domicile, et les deux sur des centres qui sont venus de loin. Lors des deux fois, il y avait deux joueurs qui couvraient le joueur en question ou qui étaient près du joueur. Et les deux fois, le but est allé du côté d'Atlanta United FC. Et ça fait très mal et c'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Parce que quand on regarde les derniers champions de la MLS, là, on va se le dire quand même. On n'est pas rendu là côté CF Montréal, je l'avoue. Il nous reste encore beaucoup de croûte à manger, mais bon, on a un entraîneur qui va rester. Laurent Courtois a dit qu'il va rester et ça a été confirmé par le président Gabriel Gervais. Et donc ça, c'est des très bonnes nouvelles parce que pour la première fois depuis très, très, très longtemps, on va avoir un entraîneur qui va faire deux saisons complète de suite avec le CF Montréal. Et la dernière fois qu'il a été engagé, quand il a commencé avec le CF Montréal, M. Courtois était venu juste avant la pré-saison. Donc là, il va avoir le temps vraiment là, de conclure cette saison, faire ses rendez-vous avec chacun des joueurs pour expliquer, pour faire son petit bilan à lui. Et ensuite de ça, il va déjà pouvoir penser à des transferts, à qui il veut garder, qui il veut se séparer, à quel plan de match il veut adhérer, qui va pouvoir être les joueurs dont il va avoir besoin pour accéder aux séries éliminatoires encore une fois l'année prochaine et pour améliorer surtout l'équipe. Il faut le dire, cette année, du côté de CF Montréal, le jeu en général, c'était beaucoup mieux que l'année dernière. On a eu beaucoup plus de plaisir à regarder l'équipe. Mais par contre, on encaisse trop de buts. Je vous ramène à la saison 2021. Ça a été une saison complète de 34 matchs. Je ne me rappelle pas s'il y avait une bulle ou pas là, en lien avec la pandémie. Mais 34 matchs joués au total. Je pense que c'est cette année-là où est-ce que c'était Thierry Henry le coach. Cette année-là, l'équipe championne, eh bien, ça a été New York City FC. Le CF a terminé 18e cette saison-là avec 46 buts marqués, 44 buts encaissés. L'équipe championne, New York City FC, qui a battu Portland au tir au but, c'est une équipe qui a marqué, entre guillemets, là, je ne veux pas dire seulement, mais qui a marqué 56 buts durant la saison régulière. Ce n'est pas non plus des sommets astronomiques. Cette année, le CF Montréal en a marqué 48. Donc, on pourrait dire, entre guillemets, on est à 8 buts d'être une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Ça, c'est en saison régulière dans les 34 matchs. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu marques plus que 50 buts que tu vas être champion. C'est pas ça que je dis. Donc, en termes de buts marqués, le CF Montréal, c'est pas mauvais en soi. C'est quand on regarde le nombre de buts encaissés. On encaisse beaucoup trop de buts. Et cette année, je l'ai déjà mentionné, on en a encaissé 64. C'est trop. L'année où est-ce que New York City FC gagne, avec leurs 56 buts marqués, ils en ont encaissé 36. 36. Et donc, 36, ça fait toute une différence. C'est presque deux fois moins de buts encaissés que le CF Montréal cette année. Et quand on regarde toutes les équipes qui ont participé aux séries éliminatoires dans l'Est, il n'y en a pas une seule qui a encaissé autant de buts que le CF Montréal. L'équipe qui en a encaissé le plus, c'est les New York Red Bulls avec 50. Et ça, c'est 14 de moins que le CF Montréal. C'est énorme. Et dans l'Ouest, sur les 9 équipes qui vont en série, aucune équipe n'a encaissé plus de buts que le CF Montréal. Donc, on le sait, au soccer, ce qui est le plus difficile, c'est de marquer des buts. On est capable d'en marquer. Mais on a beaucoup de difficultés à défendre. Et beaucoup de centres, beaucoup de buts également marqués à des moments très importants cette saison qui ont vraiment fait mal au CF Montréal. Et on l'espère que l'année prochaine, ça va s'améliorer. Donc là, on va tourner la page, on va arrêter de parler du CF, puis on va y aller avec quelques petites actualités universitaires et vous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport en quelques minutes. La semaine prochaine, on aura un bilan plus individualisé pour chacun des joueurs du club montréalais. On aura notre collaborateur William avec nous en onde pour faire cela. Et pour commencer, petite nouvelle de soccer collégial. Écoutez, les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert sont les champions de la division 1 collégiale au soccer masculin. Ils ont défait les lauréats de Saint-Hyacinthe 3-2. Ça se passait hier du côté de Trois-Rivières. Et dans le même temps, les Aigles d'Anstic l'ont emporté contre les Nomades de Montmorency au tir au but. Et donc, elles sont championnes collégiales de la division 1 de soccer. Et quant aux équipes universitaires des Carabins, eh bien les deux sont en finale soccer masculin-féminin. Ça va se passer là, le 1er novembre, ça c'est vendredi de cette semaine, du côté du Sepsum, donc programme double pour aller encourager peut-être les deux meilleures équipes de la Ligue, les Carabins qui vont jouer contre les Redbirds de l'Université McGill, et chez les femmes, eh bien, elles vont affronter le Rouge-Or de l'Université Laval de Québec. Et donc, le stade au Sepsum devra et sera sûrement plein, puisqu'on sait, là, ce sont les deux des foules les plus importantes dans le sport universitaire. Et également, samedi prochain, du côté de Laval, le 2 novembre, eh bien, c'est Laval-Concordia, demi-finale de football. Et du côté de Montréal, eh bien, samedi prochain, 15h, le 2 novembre, eh bien, les Carabins vont jouer contre les Redbirds Université McGill. Et la finale, eh bien, ça se passera le 9 novembre 2024 à midi. Et on n'a pas encore l'endroit où ça va se passer. Ça va se passer probablement là, du côté de Montréal ou de Québec, là, qui sont les deux meilleures équipes de loin dans la Ligue avec 7 victoires et une défaite chacune. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission Le Terrain Sportif. C'était Wissam Bensta avec vous en onde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit lundi prochain. Merci et au revoir.